qui nous a posé une question un petit peu pointue la semaine
Je
dernière,
me
que toute
souviens.
une équipe a travaillé sur la disparition de ce chapitre dans l'édition allemande la plus récente. Et alors le chapitre de ce soir, l'espace sacré, lui aussi, n'existe plus dans la toute dernière édition en allemand des signes sacrés de Romano Guardini. Alors l'équipe qui a réfléchi, qui a travaillé, qui a cherché, s'est rendu compte qu'on avait supprimé le chapitre sur la patène, certainement à cause de la fin du chapitre, qui cite une prière de la liturgie de l'époque de Romano Guardini en 1922. Et de la même manière, le chapitre que nous allons essayer de scruter sur l'espace sacré, s'intéresse à la mise en œuvre de la liturgie dans l'espace sacré telle qu'elle se pratiquait en 1920-1922. Peut-être que c'est dommage de considérer que les lecteurs de 2021 ne sont pas capables d'adapter ce qu'ils sont en train de lire sous la plume de Romano Guardini. Je vous laisse juger, vous pourrez constater si ce qu'il a voulu nous offrir comme méditation spirituelle peut être actualisé et fructueux pour nous aujourd'hui. Le père Guardini aime les paysages. Vous avez pu vous en rendre compte, son talent poétique s'exerce pour nous décrire des paysages, et il a été profondément fasciné dans la poésie par l'apparition des paysages, de la description des paysages dans la poésie mondiale. Et pour lui, Dante est vraiment le créateur qui fait rentrer les paysages dans la littérature, comme au même moment, les paysages prennent de plus en plus de place dans les œuvres peintes ou les œuvres mises sur les murs avec tous les moyens possibles et imaginables pour représenter particulièrement les saints ou les passages de l'Évangile. Pour lui, l'intérieur d'une église est un paysage. Et nous sommes invités, à chaque fois que nous rentrons, c'est son souhait, à chaque fois que nous rentrons dans une église, à nous y installer comme face à un paysage qui certes a été créé par la main de l'homme, mais qui veut nous raconter le mystère de Dieu et la gloire de Dieu. Donc voilà, nous entrons dans l'église et nous sommes saisis comme on peut l'être par un soleil levant ou un soleil couchant, comme on peut l'être par l'océan ou par les cimes des montagnes. Et pourtant, son approche va être assez scientifique au départ. Il nous dit, voilà, l'espace sacré, celui que nous connaissons, celui que nous expérimentons particulièrement lorsque nous entrons dans les églises, c'est un espace qui ressemble à l'espace naturel avec les trois dimensions que nous connaissons à l'espace. Il est structuré par les trois dimensions et dans l'Église, il n'y a pas le chaos, il n'y a pas le tohu-bohu du début du livre de la Genèse. Dans l'Église, les choses doivent s'étager avec ordre, dit-il. Et il reprend cette grande idée de l'ordre qui a été beaucoup déployée par le pseudo-Denis l'Areopagite, et ensuite reprise par la pensée géniale de saint Thomas d'Aquin pour dire que Dieu a mis un ordre, une hiérarchie sacrée qui permet à la fois la paix et la communication de sa vie éternelle. Pour le père Guardini, la hiérarchie, c'est vraiment cette réalité qui vient de Dieu et qui nous permet de recevoir Dieu, recevoir la lumière de Dieu et recevoir l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi l'ordre qui doit régner dans l'espace sacré de l'Église est quelque chose qui est de l'ordre du théologal, du spirituel, voire du mystique. Ce n'est pas simplement parce que nous voulons que nos églises ressemblent à quelque chose de correct que nous ne devons pas accepter qu'il y ait du désordre, qu'il y ait du fouillis, qu'il y ait des débarras que l'on voit dans les différents coins de l'Église, c'est parce que l'espace sacré est un espace qui ressemble à l'ordre que Dieu a mis dans la création dès les premiers instants où le créé apparaît. Cette absence de chaos dans l'Église. Alors, ce sont les mots traduits de Romano Guardini. Au-delà de toute plaisanterie, l'absence de chaos dans le bâtiment Église est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher. Il faut bannir tout ce qui est malpropre, tout ce qui est inutile, tout ce qui est encombrant dans l'Église. Et il dit que cette absence de chaos va rendre possible une vie qui soit en même temps paisible et régulière. Il y a là un fondement pour l'amour de la noble symétrie dans nos églises, pour reposer le regard, pour apaiser le regard, cette recherche d'une symétrie majoritaire dans l'Église, dans la manière d'agencer l'Église et le cœur de l'Église, tout cela a un sens profond qui veut refléter la paix de Dieu, qui veut refléter aussi, d'une certaine manière, la rationalité en Dieu. Comment en Dieu tout est logique sans être pénible, sans être pesant. S'il y a cette absence de chaos dans l'espace sacré, alors la vie spirituelle peut se mettre en mouvement, elle peut se construire, elle peut s'élever. C'est donc une condition pour la vie, une condition pour la croissance spirituelle. Notre sphère religieuse intérieure connaît un vrai ordre, ne serait-ce que l'ordre entre ce que saint Paul appelle l'esprit, l'âme et le corps. Un ordre et une hiérarchie. Les choses sont fondamentalement à leur place en nous, dans notre sphère intérieure. Eh bien, pour cet espace sacré qu'est l'Église, la recherche d'un ordre stable a tout à fait du sens. Le père Guardini sait qu'il écrit en Allemagne, qu'il écrit aux alentours des années 1920, qu'il est en Occident, que la liturgie qu'il pratique est la liturgie de l'Église romaine, donc une Église occidentale, une Église qui est marquée par une histoire, et il ne va pas chercher à rendre son discours immédiatement accessible pour toutes les parties du monde. Peut-être qu'il n'a jamais imaginé qu'un jour on l'étudierait dans les universités en Californie ou en Australie ou au Japon ou dans le sud de l'Afrique. Il n'était certainement pas pensable pour lui que ses écrits puissent connaître une telle diffusion. Néanmoins, avec son esprit très universel, très ouvert sur l'ensemble des cultures, il accepte d'écrire là où il est et de proposer la transposition. Ainsi, lorsqu'il nous parle des églises telles que nous les connaissons, il nous dit « bah oui, nos églises sont orientées de l'est à l'ouest, du levant au couchant. C'est ce que nous connaissons. Ce n'est peut-être pas la norme absolue qu'il ne sera pas possible de changer jusqu'à la fin du monde, mais c'est ce que nous connaissons et nous allons vivre avec cette orientation de l'Église. C'est le soleil qui donne sa direction à l'Église. Voilà. Si on veut, au commencement, le soleil. Comme dans le livre de la Genèse, comme dans le chapitre premier de la Genèse, au commencement, le soleil dans le sens la lumière. Et c'est grâce à la lumière que l'Église va s'installer dans l'espace. Les premiers rayons du jour viennent caresser l'Église, l'ensemble de l'Église, viennent lui donner le début de sa lumière. Et les derniers rayons du jour viennent tranquillement éteindre l'Église. Mais l'éveiller et l'éteindre dans une direction qui est voulue par l'architecte sacré. Dans le monde spirituel, le soleil ce sera toujours le Seigneur Jésus, le soleil levant qui vient nous visiter, comme le dit le chant du Benedictus au Laude chaque matin, le chapitre 1er de l'Évangile selon Saint-Luc. Le soleil, c'est le Seigneur Jésus. Et nous devons, spirituellement, nous orienter en permanence vers lui. Nos actions prennent une valeur d'éternité lorsqu'elles sont orientées, lorsqu'elles sont tournées vers le soleil de nos existences, qui est le Seigneur Jésus et qui est particulièrement le soleil levant, le soleil qui apparaît au matin de Pâques. Voilà le moment où il faut commencer à adapter, puisque le Père Guardini, pour passer de la direction est-ouest à la direction nord-sud, nous parle de la liturgie telle qu'il la célébrait tous les matins. Il nous dit « Pour lire l'Évangile, on transporte le missel de droite à gauche, c'est-à-dire vers le nord. » Et il précise « Parce que l'autel fait face à l'Orient. » Voilà, donc il nous parle d'un autel qui est orienté, comme c'est d'ailleurs le cas dans la liturgie orientale. Dans les liturgies de nos frères orientaux, l'autel est orienté et même doit être orienté. Si l'autel est tourné vers l'Orient, alors en déplaçant le livre qui contient les évangiles vers le nord, nous nous tournons vers le nord pour lui annoncer l'évangile. L'espace sacré est aussi marqué par cette réalité du nord dans nos églises. Le geste va symboliser que l'évangile vient du sud dans nos esprits. Oui, le salut vient des Juifs et le salut vient de la terre de Palestine. Le salut vient de la terre promise. Le Verbe éternel s'est incarné dans un pays précis qui pour nous est le sud. Pour nous est spirituellement le sud, même si d'une manière totalement technique, ce n'est pas le sud, mais dans l'esprit, c'est le sud, c'est l'endroit où le soleil est à son maximum. C'est cette représentation du sud. Et nous lisons symboliquement l'évangile tourné vers le nord. En fait, dans la façon de célébrer au Moyen-Âge, le diacre se met vraiment face au mur du nord, le sous-diacre tient l'évangéliaire, et d'une façon très étonnante, le diacre ne se tourne vers aucune personne vivante, il se tourne vers le nord, et s'adressant à la paroi nord de l'église, il proclame l'évangile. Il se tourne vers le monde des ténèbres, le monde du froid, et il lui annonce l'évangile. Alors si, parfois dans l'Église, nous nous trouvons au nord, nous devons penser que c'est pour y recevoir l'évangile. Il pourrait y avoir une manière spirituelle d'utiliser l'espace sacré qui consisterait à commencer notre prière au nord de l'Église, et recevant la lumière du Seigneur, à passer tranquillement vers le sud de l'Église. Commencer la prière du côté du froid, du côté de l'absence de lumière chaleureuse, pour aller du côté du sud. Le sud est symboliquement la patrie de la lumière éblouissante, un signe de la clarté divine. De même que le nord, ce sont les pays des horizons froids et des horizons gris. Alors, désolé de parler du nord, on ne parle pas du nord de la France, ni du nord de l'Allemagne, on parle, si vous voulez, du nord absolu. Si on voulait éclairer, oser un tout petit peu interpréter les propos du Père Guardini, on dirait que c'est le pôle nord, c'est le nord du nord, vraiment l'endroit le plus froid et le plus gris, c'est-à-dire sans lumière que nous puissions imaginer. Le Seigneur Jésus est la lumière du monde qui brille dans les ténèbres son Saint-Évangile est la lumière de Dieu qui brille dans le froid, qui rayonne dans le froid, qui va même jusqu'à percer les nuages les plus sombres de nos cœurs, et qui nous invite à être en état de réception de la chaleur, même si nos cœurs sont froids. Cette utilisation du nord et du sud nous est peut-être moins coutumière que celle de l'est et de l'ouest. Mais elle permet vraiment d'intégrer dans l'espace sacré cette grande notion du froid et du chaud. Et il y a quelque chose de profondément chaleureux, non seulement en Dieu, Dieu est chaleureux, l'être de Dieu est un être chaleureux, un être affectueux et bon, et il y a dans l'éloignement de Dieu toujours quelque chose qui est de l'ordre du froid, quelque chose qui nous glace. L'enfer est un lieu glacé, on est congelé dans le froid, alors que le paradis de Dieu est évidemment un lieu de chaleur intense. Ceci, c'est le nord et le sud. Il y a une troisième dimension, et si nous devons méditer sur cette troisième dimension, nous allons découvrir que finalement, elle est plus importante que les deux autres, que l'on pourrait considérer comme étant particulièrement culturelle, encore une fois incarnée dans nos régions, les dimensions est, ouest, nord, sud, mais la troisième dimension qui va de bas en haut, cette troisième dimension est absolument universelle. Et s'il fallait choisir pour l'utilisation de l'espace sacré de nos églises entre les premières dimensions et la troisième dimension, ce serait celle-ci qu'il faudrait favoriser. Et tout faire pour que la dimension qui va du bas vers le haut, comme d'ailleurs du haut vers le bas, soit fondamentale, soit privilégiée, et que ce soit à partir d'elle que nous vivions le plus intensément possible les gestes et les actes liturgiques. Ainsi, au moment de la préparation du sacrifice eucharistique, au moment où, comme l'écrit exactement Romano Guardini, le prêtre prépare la victime, il doit élever vers le ciel la patène et le calice. Nous devons voir cette forme de première élévation, ou si vous voulez, de pré-élévation. Il y a une manière de donner ce qui n'est encore que du pain et du vin, mêlé avec un petit peu d'eau, une manière de donner à Dieu le Père ces réalités terrestres qui est englobée dans le mystère de l'élévation. Nous utilisons cette troisième direction pour manifester ce que veut être notre offrande, totalement assumée dans l'offrande du Seigneur Jésus, mais notre offrande néanmoins. Les yeux du célébrant et les mains du célébrant doivent monter depuis les profondeurs de la prière, depuis les profondeurs de l'humanité, mais aussi depuis les profondeurs du péché, vers le Père lui-même, Dieu qui est en haut. C'est un langage qui parle à toute l'humanité. C'est un langage qui retrouve les plus profondes profondeurs de notre âme. Ce qui est en haut ressemble à Dieu. Dieu est en haut. Il y a la mention des yeux, et il est vrai que dans la liturgie que pratiquait de tout son cœur Romano Guardini, il y avait cette indication des yeux qui doivent se lever vers les voûtes, vers le point le plus haut, au-dessus de la tête du célébrant, en même temps qu'on montre, qu'on présente à Dieu le pain et le vin pour le sacrifice eucharistique. La sainteté infinie de Dieu se tient dans les hauteurs. Les psaumes, très souvent, redisent cette vérité. Ainsi, elle devient une vérité révélée, une vérité qui appartient à la Bible. La sainteté infinie de Dieu se tient dans les hauteurs. Mais c'est une réalité, c'est une pensée, c'est une expérience qui est commune à toute l'humanité. Nous mettons la sainteté dans les hauteurs. Quand il s'agit de bénir, les mains vont s'étendre sur les objets ou sur les personnes placées devant celui qui doit bénir, et c'est depuis le dessous que nous recevons la bénédiction qui vient du Très-Haut et qui vient d'en haut. La bénédiction, celle que nous recevons, elle parcourt ce chemin-là. Depuis la sainteté infinie du Père qui se tient dans les hauteurs jusqu'à chacun d'entre nous. Et notre bénédiction adressée à Dieu, elle cherche à s'élever. De bas en haut, de haut en bas, c'est la direction verticale. C'est le chemin que prend le cœur avec ses désirs, ses prières, ses sacrifices spirituels. C'est le chemin aussi que Dieu prend avec ses grâces, ses dons et ses sacrements. L'espace sacré est marqué par la verticalité. Et il est tout à fait normal qu'on prenne un soin très particulier de tout ce qui est vertical, de tout ce qui accompagne ce chemin vers le haut dans l'église bâtiment, dans le lieu dans lequel on va chercher à rencontrer le Père infiniment bon. Il faut être tourné vers le soleil levant. Il faut que du soleil levant tombe dans notre cœur la lumière de Dieu. C'est la grande orientation du cœur qui va permettre la descente de Dieu. Donc ce n'est pas en vain que nous nous tournons vers le soleil levant. Et du nord vers le sud, c'est l'obscurité qui se tourne vers la lumière. C'est la lumière qui à nouveau descend dans le cœur pour éclairer et pour réchauffer. Et puis de bas en haut, c'est un mouvement que nous devons accomplir, c'est notre mouvement pour désirer, pour souffrir, pour prier, pour tendre vers Dieu. Nous allons vers le haut de l'Église. Il faut qu'il y ait un moment, lorsque nous sommes dans l'Église, où nous cherchions à aller vers le haut de l'Église. Alors si c'est en dehors de la liturgie, il est vraiment bon de vivre ce progrès. Il est certainement très humble et très conforme à l'Évangile. C'est l'épisode du publicain et du pharisien. Très beau, très humble de rester tout au fond de l'Église, mais c'est vraiment utiliser l'espace sacré que de faire à chaque fois un pèlerinage, soit depuis l'ouest vers l'est, soit depuis le nord vers le sud, soit grâce aux marches qui existent toujours dans nos églises, depuis le bas vers le haut de l'Église. Et nous croyons que pendant que nous faisons ce pèlerinage dans l'espace sacré, la réponse de Dieu nous arrive, pluie de grâce, de bénédiction et de sacrement qui viennent des hauteurs les plus hautes où la sainteté infinie de Dieu habite. Puissions-nous avoir grande envie de vivre ce pèlerinage à l'intérieur de l'espace sacré. Nous pouvons méditer grâce à la musique sacrée. Le chapitre suivant, ce sont les cloches. Voilà. Et ce chapitre sur les cloches est l'occasion de saluer un livre du cardinal Jean-Marie Lustiger, qui date de 1988 et qui s'appelle très sobrement La Messe. Et de remarquer la dépendance du cardinal Lustiger à l'égard de Romano Guardini. En fait, il le cite et il lui dit toute sa gratitude. Il le considère comme étant un maître dans ce domaine de la spiritualité liturgique. Alors ce livre du cardinal Lustiger, vous pouvez le lire si vous en avez envie, même en ligne, par Internet, en PDF. Et alors, c'est encore une des surprises d'Internet. Vous pourrez découvrir qu'il est mis dans la rubrique science-fiction. Voilà. Donc, un livre sur la messe par le cardinal Jean-Marie Lustiger, je pense que c'est une erreur tout de même, est considéré comme un ouvrage de science-fiction. Alors, nous retournons dans le concret, dans le réel et dans l'actuel, et laissons le père Guardini nous parler de ces signes de Dieu que sont les cloches. Tout dans nos églises nous parle de Dieu. La présence divine emplit les moindres recoins de l'Église, dans la mesure où il n'y a pas trop de poussière, puisque nous croyons que la poussière et Dieu s'excluent l'un l'autre. Le mystère qui semble flotter derrière les murs de l'Église, le silence qui règne sous les voûtes élevées, ces lieux clos où le monde entre sans entrer, font de la maison église, la maison du Seigneur. Tout converge vers le Saint des Saints dans l'Église, dont nous avons dit qu'il est selon les moments, selon les temps, l'autel ou le tabernacle. Tout converge. Et plus loin, il y a la voûte du ciel qui s'étend sur la plaine, qui caresse les monts jusqu'à l'infini, qui baigne les vallées. Et comment va se relier ce paysage avec le sanctuaire? Eh bien, d'une manière très lisible, très visible, ce qui va relier le paysage avec le Saint des Saints au cœur de l'Église, c'est le clocher de nos églises. Le clocher, habituellement, s'élance dans l'air libre pour prendre possession de l'atmosphère, en quelque sorte, au nom de Dieu. Et dans l'ombre du clocher, les bronzes des cloches sommeillent. Et de temps en temps, ces bronzes des cloches vont s'agiter comme des vagues. Ils vont rouler onde sur onde à travers l'atmosphère, des ondes argentines et vives, ou des ondes graves, des ondes lourdes et lentes, qui sont les messagères de Dieu, et qui vont en rafale à travers l'espace, inonder la campagne, inonder la ville des flots harmonieux de leur son. Ce sont les cloches. Les cloches qui sortent de l'espace sacré pour, d'une certaine manière, convoquer tout l'espace à entrer dans l'espace sacré. Ces cloches qui sonnent sont messagères de Dieu dans le ciel, messagères sans patrie, sans frontières, messagères des grands désirs et des joies infinies. Les cloches appellent tous les hommes de désir dont le cœur veut goûter les espaces de Dieu. Les cloches sont faites pour sonner. Comment ne pas penser à ce qu'a vécu ici Saint Jean-Marie Vianney, qui avait une telle affection pour ces sonneries des cloches, une affection qui était en partie renforcée par son expérience de jeune garçon avec les cloches qui avaient été obligées de se taire après la révolution de 1789. Et comment le peuple a pleuré en entendant à nouveau sonner les cloches dans les clochers lorsque la pratique du culte catholique a été à nouveau tolérée dans les régions qui avaient été gouvernées par la révolution de 1789. C'est une expérience du curé d'Ars qui, comme celle de sa première communion dans la clandestinité, qui va le marquer sans le rendre revanchard ou polémique à l'extrême, mais il a découvert le prix simplement de ce luxe, de cette joie, d'entendre le son des cloches pendant qu'on est dans la campagne. Je crois que beaucoup de nos contemporains seraient d'accord pour dire que entendre les cloches sonner, même si on n'est pas croyant, c'est vraiment une sorte de consolation. C'est une musique qui fait du bien au cœur, qui fait du bien à l'âme. À entendre les cloches, il semble que l'étendue nous devient palpable. Et quand elles vibrent et qu'elles emplissent de leur mélodie le pays tout entier, nos désirs à nous vont nous porter vers des horizons infinis. Et notre cœur va sentir que pour être rassasié, ces désirs doivent dépasser les paysages et doivent entrer dans un autre paysage, qui est le paysage de l'espace sacré. Quand depuis la montagne où pointe le clocher, le son des cloches descend dans la vallée ou vole vers les cieux, les poumons se dilatent et ils ressentent une vigueur inconnue. Les cloches appellent. Les cloches sont l'instrument d'une vocation, un appel de Dieu. Elles ne sont pas là pour annoncer un événement, elles sont bien davantage là pour appeler. Et nous croyons, elles sont là pour appeler à la communion. Elles sont là pour appeler à rejoindre ces espaces de communion que sont nos espaces sacrés Église. La voix des cloches est une voix qui, d'une certaine manière, nous supplie de quitter les difficultés de nos existences, de quitter aussi le concret de nos existences, le quotidien, pour rejoindre la communion avec Dieu et ainsi diffuser la communion autour de nous. Cette voix des cloches peut s'enfoncer parfois dans les forêts, très loin, ou dans le vaste silence du crépuscule. Elles viennent parfois de loin, de très loin, et même on ne sait pas exactement d'où elles viennent. Quelle ressemblance avec le mystère de la voix de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Lorsque nous sommes, comme le dit le père Guardini, dans la forêt, nous pouvons penser à ces forêts un peu sombres et très denses de la Bavière, immenses, et que le son des cloches nous parvient, nous pouvons même difficilement localiser le clocher d'où vient ce son des cloches. Mais cet appel existe. Nous n'arrivons pas à le localiser précisément, mais il nous rejoint. Et il nous demande de faire cette démarche pour aller vers le lieu de Dieu, vers l'espace sacré de Dieu. Et en nous, il y a quelque chose qui se réveille. Les plus anciens oublis ressuscitent et nous nous mettons à réfléchir, nous nous mettons à prendre conscience. Il y a donc quelqu'un qui appelle. Il y a donc une personne au-delà de toutes les autres personnes qui m'appelle. Et les cloches prêtent leur voix pour faire retentir cet appel à la vie éternelle, cet appel à la sainteté, cet appel à la gloire, cet appel à la lumière. Alors encore une fois, c'est comme si nous nous mettions à palper l'espace, à saisir les cieux, à saisir le son qui est dans les cieux, et que nous nous mettons à prendre la décision d'une réponse à cet appel si lointain de l'éternité qui parvient jusqu'à nous. Parce que la tristesse, ce sont les cloches sans réponse. La tristesse, ce sont les cloches qui sonnent en vain, comme les cloches de l'Angélus, trois fois par jour, qui continuent à sonner et qui ne provoquent pas la prière de l'Angélus, ou qui provoquent peu la prière de l'Angélus. Il y a aussi, dans ces cloches d'aujourd'hui, de notre vie d'aujourd'hui, il y a aussi un symbole puissant de la voix de Dieu qui crie dans le désert et qui ne semble pas être entendue. Du son des cloches qui se perd, qui garde peut-être sa musique, mais dont les paroles ne semblent plus être audibles. Ce son des cloches, ce battement des cloches comme battement de cœur, comporte à la fois une musique et des paroles, et c'est comme s'il ne restait plus que la musique. Alors que nous savons que dans le chant sacré, ce sont les paroles qui sont les plus importantes. C'est des paroles que sort la musique. Et le chant est parole. Le chant est communication et communion avec le Seigneur Tout-Puissant. Nous sommes le 22 novembre, c'est la fête de Sainte Cécile, la patronne des musiciens, la patronne de tous ceux qui mettent leur art lyrique ou musical au service de la gloire de Dieu. Et nous nous rappelons que la parole, que le texte, que la révélation biblique est ce qui domine complètement l'art sacré. Dans les cloches, les choses sont assez similaires. Le monde est grand, nous disent les cloches. Le monde est tellement plein de désirs, mais dans ce monde si vaste, proche de l'infini, il y a une voix de Dieu qui appelle. Il voit une voix de Dieu qui ne cesse de dire « En moi seul est la paix ». Aujourd'hui, si vous entendez ma parole, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Seigneur, je sais que mon âme est encore plus grande que le monde et que tous les mondes qui pourraient exister. Seigneur, je sais que les vallées de mon âme sont plus profondes que les plus profondes de toutes les vallées. Et je sais aussi que mes désirs sont plus douloureux que des sons qui se perdraient en vain au loin. Et je veux entendre, je veux laisser résonner en moi cet appel et me mettre en route. Seigneur, toi seul peux rassasier ce désir de mon cœur et je veux répondre à ma vocation, je veux répondre à ton appel, je veux me lever, marcher, entrer dans ton lieu saint et te rencontrer. Je ne veux pas laisser sonner en vain cet appel à la communion, et je veux être attentif même à la moindre sonnerie, au moindre tintement qui pourrait s'approcher de moi, qui pourrait venir jusqu'aux oreilles de mon cœur, et laisser surtout la joie de l'espérance venir jusqu'à moi. Dans nos traditions, les cloches ont une importance majeure à Noël et à Pâques. C'est quelque chose de très impressionnant. Les carillons de cloches qui accompagnent les chants de Noël et le symbole des cloches de Pâques qui annoncent la résurrection, qui appellent et qui annoncent que l'œuvre de Dieu est déjà accomplie, qu'elle est déjà proche de nous et qu'il n'y a plus qu'à rejoindre le Seigneur là où il nous attend pour être comblé de sa vie éternelle. Puissions-nous vraiment ouvrir l'oreille de notre âme et entendre tous ces appels divins. Amen.